Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de Montpellier et de ses partenaires. C'est une balade bien connue des Montpelliérains. Le parc des Thermes de Juvignac, à seulement quelques kilomètres du centre de la métropole, se déploie entre les berges de la Mausson d'un côté et le golfe de Juvignac de l'autre. C'est au XIXe siècle qu'un établissement thermal y est construit autour des bienfaits de l'eau de la source de Foncaude, d'où jaillit une eau dont la température oscille entre 21 et 25 degrés. En 1812, la Société de médecine de Montpellier confirme, après analyse, les vertus de cette source pour les personnes souffrant de maladies de peau, de sciatique ou de rhumatisme. Le 30 juin 1846, un arrêté ministériel qualifie la source de Foncaude d'eau thermale acidule, autrement dit chargée en acide carbonique. Les thermes ouvrent l'année suivante, mais après seulement 10 ans d'exercice, leurs propriétaires se tournent vers un autre liquide, le vin. Il faudra attendre mars 1999, pour qu'un nouvel arrêté du ministère de l'Emploi et de la Solidarité autorise la ville de Juvignac à mettre à disposition de ses habitants l'eau de Foncaude. Un forage profond est réalisé afin de capter l'eau à la source et de la protéger de toute contamination par des eaux superficielles. En 2009, un nouveau complexe de balnéothérapie est créé en lieu et place des thermes. Malheureusement, l'établissement ne résiste pas à la crise sanitaire de 2020 et ferme à nouveau ses portes en 2021. Mais les eaux des thermes de Juvignac continue d'intéresser, notamment des étudiantes et étudiants de l'Université de Montpellier et de l'Université de Toulouse, qui se sont penchés sur un plan d'eau du parc. Ils y ont trouvé deux touristes venus de contrées lointaines qui semblent apprécier la source de Foncaude au point de s'y être installés sans doute durablement. Leurs petits noms, Poecilia reticulata et Neocaridina davidi. Si les deux bestioles sont un ravissement pour les yeux, pas sûr qu'elles le soient pour l'écosystème local. On en parle avec nos deux invités, Andrea Reyes Camargo et Ilan Benalima. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux dans Allume la science. Donc vous êtes étudiante et étudiant en master biologie, écosystème, évolution, parcours écosystème. Et vous publiez Evidence of an Established Population, je vais arriver, of Poecilia reticulata et Neocaridina davidi in Metropolitan France dans la revue Cibium. Alors, elle aussi rêve de tourisme dans des sources d'eau chaude à mes côtés pour mener cette interview. Aline Perriot, bonjour.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, on reste dans les bestioles mais terrestres. Cette fois-ci, nous vous proposons de visiter PIC, la plateforme pour insectes en quarantaine du campus Triolet. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56... 55, 54.
Alors pour commencer, Andrea Reyes Camargo et Ilan Benalima, donc on vient de le dire en lancement, vous êtes en master tous les deux. C'est pas très courant de publier en master. Comment vous vous y êtes pris, Andrea?
En fait, on cherchait pas à publier dans le début. On se baladait juste au Parc des Thermes avec Tom Jamouneau, qui est
un autre co-auteur de l'étude.
Oui, c'est un collègue à nous. Et on était plus sur un délire de biologiste et de photographie animalière. Et à un moment, on a vu des gens qui étaient vers la source en train de jouer avec des épucettes. Et on est venu leur demander ce qu'ils attrapaient. Et ils nous ont répondu que c'était des crevettes ou des écrevisses. Mais Tom, il est plus doué dans le monde aquatique. Et il a vu que c'était pas des écrevisses. Ni des crevettes. Et il a vu que c'était des petits poissons. On a voulu les attraper. Et on a réussi à en prendre un et on a vu que c'était des guppies. Du coup, des poissons qui viennent d'Amérique du Sud.
On y reviendra justement.
Et oui, justement. Donc, ce que vous avez découvert autour de Montpellier, c'est ces deux espèces qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais été observées dans cette région. Donc, Poecilia reticulata et Neocaridina davidi. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous les décrire, ces petites bestioles, à quoi elles ressemblent, d'où elles viennent et comment elles vivent?
Alors, pour Poecilia reticulata, c'est une espèce de poisson de petite taille, très commune en aquarium. Les mâles ont une queue de grande taille assez vive Et c'est ça qui est apprécié dans l'aquariophilie.
C'est quoi leur nom? Peut-être que ça leur donne, ça
donnera une idée. On parle de guppies.
Plus connu sous ce nom-là.
Surtout ce nom qui est connu. Et ils viennent d'Amérique du Sud. Pour la Neocaridina David, donc c'est une crevette, aussi de très petite taille, avec beaucoup de couleurs différentes. On en trouve des rouges, des vertes.
Elle est super jolie d'ailleurs.
Et elle est très belle, c'est vrai. Et cette espèce, elle est originaire d'Asie du Sud-Est.
Et justement, en aquariophilie, vous écrivez dans votre publication que c'est des animaux qui ont beaucoup de succès, qui sont très communs. Comment on explique qu'ils soient aussi répandus dans les aquariums des débutants, entre guillemets?
Ils prolifèrent assez facilement. C'est des espèces qui vont produire beaucoup de petits, se reproduire assez facilement aussi. Et c'est ce qui fait souvent que les gens en ont un excès dans leurs aquariums.
C'est des espèces aussi qui sont assez faciles d'en prendre soin. Normalement, ce qu'on nous disait, c'était que les guppies sont d'habitude, les gens qui sont débutants en aquariophilie en prennent, parce qu'ils sont assez résistants en tout cas.
Alors, on l'a dit en introduction, vous avez trouvé, vous les avez trouvés dans le parc des Thermes de Juvignac. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet écosystème, nous décrire un petit peu à quoi ça ressemble et puis qu'est-ce qu'on y trouve normalement dans cet écosystème?
Oui, du coup, comme vous l'avez dit, c'est une source d'eau chaude, une source thermale, ce qui convient assez bien à ces deux espèces, sachant qu'elles habitent... dans leur écosystème d'origine, l'eau elle est entre 25 et 28 degrés. Du coup, avoir une eau qui est assez chaude ici, c'est assez bien pour elles. Cet écosystème, la source comme telle, le site d'étude, il est conformé par un bassin qui est connecté à la mousson par des périodes, par un canal qui fait entre 15 et 20 mètres.
Elle est grande cette mare ou c'est petit?
Non, pas trop. Pas trop, elle est assez petite, mais ils se plaisent là. Voilà.
Pardon.
Comme espèce, on n'en retrouve pas vraiment d'espèces locales pour l'instant. Des fois, les gens nous ont dit qu'ils ont vu des anguilles, mais d'espèces comme telles, assez pressantes, on n'en voit pas.
Oui, parce que la température doit être trop élevée pour les espèces locales, en fait.
Oui.
Ouais, ça favorise l'arrivée et l'établissement d'espèces introduites.
Alors ces deux espèces-là, justement, c'est la première fois qu'on les voit en France métropolitaine. Vous nous avez raconté tout à l'heure comment vous les aviez découvertes. Vous y attendiez ou ça a été une surprise pour vous au détour de cette balade de tomber sur ces deux espèces?
C'était complètement une surprise. On ne s'attendait pas à trouver des espèces tropicales au sein de Juvignac. Et c'était une surprise qui nous a fait plutôt peur que joie.
Alors, vous le dites aussi dans votre publication, mais vous nous l'avez raconté un petit peu. Selon les habitants, donc les goupilles vivent ici, vivent sur le site depuis au moins 2019 et les crevettes depuis 2021. Alors déjà, est-ce que c'est habituel d'aller enquêter auprès des riverains ou c'est parce que vous les avez rencontrés sur le site?
Non, en vrai. C'est un discours que je donne assez souvent auprès des gens qui me demandent un peu pourquoi on commence à interroger les gens. Il y a quelques années, quand les profs y formaient les chercheurs maintenant, d'aujourd'hui, ils se focussaient...
On a compris.
ils étudiaient beaucoup l'écosystème et l'espèce qui leur intéressait, mais sans prendre en compte les humains qui sont présents et qui ont été présents depuis très longtemps et qui seront présents pendant un bon moment. Et maintenant, on écoute de plus en plus. Et nous, je parle pour tous mes collègues, on se rend compte que c'est super important de parler avec les gens qui sont les premières à être là, du coup les locaux, parce que ces espèces, elles sont pas arrivées par magie là où elles sont. Et c'est évidemment à cause des humains.
Et alors ces espèces, vous avez, pour confirmer leurs identités, donc vous avez déjà observé et déduit ce que c'était, mais pour le confirmer, vous avez fait des analyses morphologiques et moléculaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez regardé exactement pour confirmer leur identité, Ilan?
Oui, donc pour ce qui est des guppies, on regarde en fait au microscope leur gonopodium, donc c'est un organe reproducteur. Mais au final, ce qui donne vraiment le mot de la fin donc, sur leur identité, étant donné qu'on retrouve en fait beaucoup... beaucoup d'hybrides. Et donc, c'est très dur en fait, de faire la différence entre les guppies et les espèces apparentées. Surtout que très souvent, on qualifie de guppies et des espèces qui ne sont pas des Poecilia reticulata. C'est surtout les analyses moléculaires qui ont permis de bien identifier les espèces et de dire précisément que sont Poecilia reticulata et Neocaridina davidi.
Alors, vous observez également, donc, en regardant la morphologie de tous les individus, une grande hétérogénéité des traits, j'ai réussi à le dire, des traits morphologiques donc, entre les individus. Qu'est-ce que vous en déduisez concernant leur condition d'introduction dans ce milieu ?
Ça pourrait vouloir dire qu'il y a eu des introductions successives, parce qu'on retrouve des morphes qu'on n'avait pas observés auparavant. Donc, comme si une personne venait ramener à chaque fois des nouveaux guppies. Parce qu'en général, les guppies, après plusieurs générations dans cette source d'eau, ils ont tendance à devenir de plus en plus ternes, parce que ces couleurs vives qu'ils ont en aquarium ont été sélectionnées par l'homme, et surtout sont un danger pour eux, c'est-à-dire qu'ils deviennent beaucoup plus visibles pour les prédateurs.
Ouais. Et du coup, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des conditions plutôt favorables à leur reproduction, parce que vous avez observé qu'il y avait beaucoup de juvéniles et de femelles porteuses d'œufs, et vous évoquez aussi la température de l'eau. Alors, est-ce que c'est le réchauffement climatique qui est favorable à leur installation, ou est-ce que c'est eux qui peuvent s'adapter à des températures plus basses et y survivre, même si ce n'est pas leur préférence ?
Du coup, c'est un peu des deux. En effet, ces deux espèces, elles ont une grande plasticité, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent assez facilement à des différentes conditions. Comme je vous ai dit auparavant, elles sont habituées à une eau qui oscille entre 25 et 28 degrés pendant toute l'année dans leur écosystème d'origine.
Et on est à quelle température là dans les parcs ?
Là, le minimum qu'on a trouvé, c'est 21 degrés.
Même en hiver ?
Même en hiver. Du coup, elle est assez bonne pour eux. Mais ils arrivent à s'adapter aussi au froid. Ils ont une grande résistance au froid, surtout les crevettes qui ont déjà réussi à rejoindre la rivière de la Mosson.
Alors le plan d'eau, vous l'avez dit, il est donc justement connecté, mais à seulement certains moments de l'année, donc à la rivière de la Mosson. Comment ça se fait que c'est seulement à certains moments ?
C'est surtout quand l'eau elle augmente, du coup, dû aux pluies. Et il paraît aussi qu'il y a une connexion souterraine. Ouais.
D'accord. Et elles y trouveraient potentiellement donc des conditions favorables dans la Mosson, ces deux espèces ? Qui veut répondre ? Ilan, Andrea ?
On pense que plutôt, c'est plutôt quelque chose qu'on va retrouver donc, chez la crevette. On retrouve beaucoup de populations donc, de crevettes de Neocaridina davidi en Europe, dans des sources d'eau qui ne sont pas réchauffées. Elles ont une plus grande adaptabilité en fait, donc, aux différentes températures. Par contre, les guppies, en tout cas, on n'a pas retrouvé dans la Mosson. Il semblerait que pour l'instant, ils ne sont pas capables de s'y propager. Par contre, avec le réchauffement climatique, il est possible donc, que la température de l'eau augmente et donc leur permette de proliférer dans la Mosson.
Et on ne peut pas imaginer qu'ils trouvent des prédateurs dans la Mosson, justement. Par quoi ils pourraient se faire bouffer ces poissons et ces crevettes ?
Le problème, c'est que d'un côté, vu que ces espèces qui ne sont pas originaires de cet écosystème, il n'y a pas d'espèces donc adaptées à les consommer. Donc potentiellement, elles n'ont pas forcément retrouvé de prédateurs. Mais des espèces qu'on peut retrouver dans la zone, ça peut être des poissons de plus grande taille, des oiseaux pêcheurs, comme les martins pêcheurs.
On a déjà vu notamment des martins pêcheurs et des bergeronnettes des ruisseaux en train de prédater les crevettes et les guppies.
Ouais.
Ça ferait une jolie photo, c'est un martin pêcheur avec une crevette rose comme ça.
Alors justement, ces crevettes, elles y sont déjà dans la Mosson, les guppies peut-être un jour. C'est pas sans conséquence ça pour les écosystèmes locaux qui vivent déjà dans cette rivière. Vous parlez même de multiples impacts écosystémiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça va générer comme perturbation ?
En effet, du coup, c'est pour ça que je vous ai dit que quand on les a découvertes, ça nous fait ses peurs. Elles peuvent déjà utiliser la Mosson comme un couloir pour se propager et arriver à d'autres écosystèmes où elles seraient pas, elles sont pas maintenant, et du coup impacter les autres écosystèmes. Aussi, il peut y avoir de la propagation de pathogènes qui sont pas locaux, par exemple des parasites. C'est pour ça qu'on est en train de travailler avec un chercheur qui fait son postdoc en Allemagne en ce moment, Sébastien Prati, qui est spécialisé en crevettes et en parasites. Et il a trouvé un parasite qu'il ne connaît pas trop et qui pourrait être nouveau. En tout cas, il est nouveau pour la France métropolitaine. Et il pourrait aller contaminer les crevettes locales.
D'accord, ça pourrait disséminer les populations de crevettes locales avec les parasites.
Oui, exactement. aussi, ça peut avoir, ils peuvent avoir de la compétition, ces crevettes qui viennent des aquariums avec les crevettes locales, qui sont des crevettes de Desmaresti. Et peut-être, ça, elles pourraient être meilleures compétitrices pour, que les crevettes locales et peut-être les exclure. On ne sait pas trop, mais c'est un peu les grosses peurs qu'on a pour l'instant.
Quand vous dites meilleures compétitrices, ça veut dire qu'elles se reproduisent plus facilement et qu'elles captent mieux la nourriture ?
C'est ça, par exemple.
Juste la nourriture, ça mange quoi une crevette ?
question piège.
Elle peut manger des œufs. Comme les guppies, ce sont des animaux omnivores. Du coup, elle peut manger des œufs, des sédiments, des micro-organismes.
Un peu de tout.
Oui.
Alors, on l'a dit en introduction, c'est la première fois en France qu'on trouve ces espèces-là. Par contre, il y a déjà eu des précédents dans d'autres régions d'Europe, en Allemagne, en Pologne et en Hongrie. Est-ce que là-bas, on a pu observer justement les conséquences que vous craignez, Ilan ?
Pas réellement. En tout cas, il n'y a pas encore eu suffisamment peut-être d'études sur le sujet, mais ce n'est pas encore ce qu'on a vu. Après, encore une fois, donc avec le réchauffement climatique, il peut y avoir une plus grande propagation de ces espèces-là et elles peuvent avoir un effet... plus fort.
Et là-bas aussi, c'était dans des écosystèmes un peu particuliers, enfin dans des zones des eaux chaudes par exemple, des sources d'eau.
Alors
chaude.
Pour les néocaridines, non, c'est des espèces, enfin là aussi donc c'est des sources pas forcément réchauffées. Elles ont l'air de vraiment bien s'adapter au froid. Par contre pour les guppies, oui c'est forcément donc des cours d'eau réchauffés avec des températures qu'on ne retrouve pas dans d'autres cours d'eau de la région.
Après, comme c'est des espèces exotiques, il n'y a pas énormément d'études sur ça. C'est un sujet assez nouveau, tant pour les crevettes et les guppies comme pour n'importe quelle espèce exotique. C'est malheureusement un sujet qui devient de plus en plus commun et dont on se penche beaucoup plus pour essayer de comprendre les impacts en général négatifs que ça peut avoir.
Alors justement, là, ces guppies, ils ont été relâchés de façon un peu clandestine dans ces eaux-là. Mais il est arrivé qu'ils soient relâchés volontairement pour faire de la lutte biologique et lutter contre les moustiques, par exemple. Du coup, c'est une bonne chose ou pas, ça, de faire ce système de lutte biologique ?
Alors, si c'est vraiment bien contrôlé, ça peut être utile. Mais le problème, quand on fait des introductions comme ça, c'est que très souvent, ça peut dégénérer. Ces espèces-là, elles peuvent après venir se propager en dehors et prendre un rôle qu'on ne cherche pas. Et en fait, si c'est pour éliminer les nuisibles, elles peuvent elles-mêmes devenir des nuisibles. Et en fait, ça recommence. On se retrouve encore avec un autre nuisible. Et on va peut-être vouloir encore le contrôler de façon biologique. Et ça ne va pas forcément être une bonne idée, surtout si ce n'est pas dans... le rang originel de l'espèce, dans sa répartition.
Ça, c'est un gros problème, en fait. Comme être humain, on a cette tendance à essayer de manipuler un peu la nature et de trouver une solution, entre guillemets, mais sans vraiment réfléchir à les impacts futurs qu'elle peut avoir, mais plutôt sur l'impact à l'instant. Et on peut causer des gros problèmes.
Fausse bonne idée.
Exactement.
Alors, vous préconisez justement la mise en place donc, d'un suivi. En quoi il pourrait consister ce suivi ? Par qui est-ce qu'il pourrait être effectué ? Qui veut répondre ? Andrea ?
Pour l'instant, on est en train de... maintenant qu'on a répertorié ces nouvelles espèces, maintenant on veut comprendre un peu comment l'écosystème réagit à cette introduction. Et comme on sait que maintenant elles sont dans la moisson, on veut savoir... est-ce qu'elles vont réussir à s'établir et se propager au sein de celle-ci ? Du coup, pour l'instant, on va commencer à faire des échantillonnages dans la moisson pour voir si les crevettes, notamment, elles arrivent à se reproduire dans la moisson ou si c'est des crevettes qui ont déjà des œufs dans elles, qui arrivent à la moisson déjà avec les œufs. La première option serait un peu la pire parce que ça veut dire qu'elles peuvent avoir tous les stades de vie dans des températures aussi basses. Du coup, maintenant, on est en train de échantillonner. et on veut commencer à voir un peu les variations de température, voir s'il y aurait un refuge thermal, du coup, entre les deux entrées de la source d'eau chaude, qui ferait qu'il y a un endroit dans la moisson qui est un peu plus chaud, ou si elles arrivent à vivre tout au long de la moisson. Pour l'instant, c'est toute l'équipe qui... On a déjà recruté deux nouveaux intégrants qui vont nous aider avec tous ces suivis et un peu les analyses.
Alors, vous avez dit que c'était beaucoup utilisé en aquariophilie et des sources d'eau chaude. Il y en a d'autres en France. Vous n'avez pas envie d'aller voir un peu comment ça se passe ailleurs en France, parce qu'on peut imaginer que des petits malins qui ont été relâchés, les poissons, il y en a d'autres. Ilan, vous...
Oui, bah, potentiellement, c'est le cas. On a entendu parler à Incarville d'une source d'eau chaude, elle aussi habitée par potentiellement des guppies et même, à ce qui paraît, d'autres espèces exotiques. Et donc, ce serait intéressant d'aller regarder, en tout cas d'envoyer quelqu'un de la zone, bien vérifier que ce sont des guppies et qu'on retrouve là-bas, et même donc, d'autres espèces. On a même entendu parler de grenouilles exotiques.
Et des crevettes aussi, ouais. Ils en ont retrouvé. Du coup, l'idée serait d'essayer d'avoir quelqu'un qui puisse aller échantillonner un peu, voir les paramètres abiotiques, du coup, température et pH de l'eau. Et voir aussi s'il y a tous les stades de vie et comment on pourrait mettre en parallèle la population qui est là-bas avec celle qu'on vient de retrouver ici. Et aussi, on aimerait continuer avec cette perspective de socio-écosystème, peut-être faire des enquêtes là-bas et aussi se rapprocher auprès des animaleries qui sont, entre guillemets, la source de ces animaux pour savoir comment ils gèrent un peu les espèces exotiques et tout ça.
Donc avis à nos auditeurs, si vous avez des goupilles, ne les relâchez pas, peut-être que la personne concernée nous écoute. Vous êtes tous les deux en Master 1 ou Master 2 ?
Master 1.
Master 1, donc vous avez déjà trouvé votre sujet de thèse là ?
Potentiellement.
Peut-être.
Merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Et on passe maintenant donc à notre séquence reportage, alors des bestioles toujours mais en laboratoire.
Et oui, a priori cela ne risque pas de s'échapper dans la nature pour aller coloniser d'autres milieux. Ce sont les insectes bien confinés de la plateforme pour insectes de quarantaine PIC. Elle est située sur le campus Triolet et c'est Magali Echen du laboratoire Diversité, Génome et Interaction Micro-Organismes Insectes qui nous fait la visite.
Bonjour, je suis Magali Echen, je suis la responsable de la plateforme pour insectes de quarantaine donc qui s'appelle PIC. Là, on est juste devant le SAS, donc on va pouvoir rentrer. On va devoir s'habiller, parce que pour vous expliquer, nous, ce qu'on confine, c'est des petits insectes. Donc, on ne veut pas qu'il y ait des insectes sur les vêtements des gens et qu'on puisse sortir avec. Donc, on va devoir mettre une blouse et des surchaussures pour assurer le confinement.
Pourquoi vous laissez la porte ouverte de l'armoire à blouse ?
Ça, c'est juste à cause du Covid.
Pour quelles raisons, précisément, ils ne doivent absolument pas sortir, ces insectes que vous étudiez ici ?
Alors, c'est ce qu'on appelle des insectes nuisibles de quarantaine. Donc, ça veut dire qu'ils font partie d'une liste de la Commission européenne qui indiquent qu'ils ne sont pas présents dans le territoire européen et que s'ils arrivaient, ils créeraient des dégâts et des problèmes économiques. Donc pour travailler sur ces insectes-là, on doit travailler en conditions confinées. Donc on a pris le parti qu'il n'y ait pas de raccordement de l'eau à l'égout pour être sûr qu'il n'y ait aucun insecte qui puisse partir dans l'égout.
J'imagine que toutes les entrées et sorties possibles ont été envisagées, la ventilation, les fenêtres.
Effectivement, la plateforme a été conçue pour être complètement étanche aux insectes. Le sol a été travaillé pour ça. Les plafonds, les cloisons sont étanches, les fenêtres sont fixes. On a même pensé à boucher les sorties de gaines électriques ou les sorties d'évacuation d'eau des clims. À tout moment, je peux avoir un contrôle, un audit fait par la protection des végétaux du service régional de l'alimentation qui vient pour vérifier si je respecte bien ces règles.
Ici, c'est notre plateforme d'expérimentation.
Là, je vois un frigo avec écrit « insectes infestés ». Qu'est-ce que ça veut dire, 23 degrés ?
Alors, ce n'est pas un frigo, c'est une enceinte climatique, mais ça ressemble à un frigo. C'est dans ce type d'enceinte qu'on va faire nos manies pour avoir des conditions de température et d'hygrométrie et de photopériode contrôlées et qui est la mieux adaptée à l'expérimentation qu'on veut faire. Et infesté, ça veut dire que là, il y a une expérimentation en cours certainement dans lequel on a mis des nématodes, qui sont des petits vers ennemis naturels des chenilles, pour voir comment ils font pour tuer la chenille et pour voir si on pourrait s'inspirer d'eux pour créer des nouveaux moyens de lutte contre les chenilles.
On n'en a pas parlé, mais est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que la lutte biologique ?
La lutte biologique, c'est une façon de lutter contre les nuisibles sans utiliser de pesticides chimiques. Par exemple, faire des lâchers de prédateurs, comme avec les coccinelles pour tuer les pucerons. Ça peut être de la confusion sexuelle en utilisant des hormones pour déboussoler un peu et perturber les accouplements.
simplement, ou ça peut être utiliser des ennemis naturels, des bactéries ou des virus, qui naturellement tuent ces insectes.
C'est un vrai carnage chez vous, en fait.
Mais on ne tue que les méchantes chenilles.
Notre plateforme, elle est agréée pour 3 insectes nuisibles. Leur nom barbare, c'est Spodoptera frugiperda, qui est aussi connu sous le nom de la légionnaire d'automne. On a aussi Spodoptera littoralis, qui est la noctuelle méditerranéenne. Et nous avons également Helicoverpa armigera, qui est la noctuelle des tomates.
Quand on voit les photos, elles ressemblent à des papillons de nuit, en fait.
Exactement. Et pour être un peu plus précise, quand on a construit la plateforme en 2013, donc on a demandé l'agrément pour ces 3 insectes. Mais depuis, les 2 derniers, la noctuelle méditerranéenne et la noctuelle des tomates, ont été déclassés. Donc ils ne font plus partie des organismes de quarantaine parce qu'ils sont déjà très présents en France. Mais on continue de travailler en conditions confinées parce que ça reste quand même des nuisibles et que ça ne sert à rien de mettre des nuisibles dans la nature.
Qu'est-ce qu'ils mangent, ces insectes? Sur quel type de culture est-ce qu'ils font des dégâts?
Ces 3 noctuelles sont des ravageurs assez redoutables parce qu'ils sont très polyphages. Ils vont manger une gamme de plantes assez large et donc s'ils ne trouvent pas leur plante préférée, ils vont toujours réussir à se nourrir sur autre chose. Actuellement, la solution est la lutte chimique, d'où nos travaux pour essayer de trouver des moyens de lutte plus éco-responsables.
Alors là, on est rentré dans le box parasitoïde.
Donc dans ce box-là, on va étudier des guêpes parasitoïdes. C'est des toutes petites guêpes qui sont des prédateurs naturels des chenilles qu'on étudie. Elles vont pondre leur œuf dans la chenille quand elle est toute petite et en même temps, elles vont injecter du virus. Et le virus injecté par la guêpe va immunodéprimer la chenille, c'est-à-dire l'empêcher de se défendre pour que l'œuf puisse se développer. Donc c'est une coopération en fait entre le virus et la guêpe. Et donc on étudie comment ça fonctionne au niveau moléculaire.
Et donc ce sont ces fameuses guêpes qu'on voit volter dans les petites boîtes sur le bureau.
Exactement. Là on voit des petites chenilles qui se sont fait parasiter, je pense.
Une fois qu'elles sont parasitées, qu'est-ce qui leur arrive aux chenilles?
Elles meurent. De l'œuf va naître une larve qui va se développer à l'intérieur de la chenille d'abord. Puis après, quand il sera assez gros, il va sortir. La larve va tisser un cocon. Alors je vais vous montrer les cocons, ils sont très très beaux. Et du cocon sort l'adulte.
Et elles sont toutes petites, ces guêpes.
On appelle ça des micro-guêpes. Mais elles ressemblent quand même, elles ont une taille de guêpe, si vous regardez bien de près.
Si jamais on imagine les utiliser, par exemple, dans le cadre de la lutte biologique, est-ce qu'elles vont pondre spécifiquement dans ces chenilles-là ou est-ce qu'elles peuvent aller détruire d'autres espèces de chenilles?
Alors ça aussi, on l'étudie, la spécificité d'autres. Ça dépend des espèces de guêpes, sachant que ces guêpes, elles sont déjà présentes partout dans la nature et qui régulent déjà un petit peu la pression des ravageurs.
Et si on envisageait d'en introduire davantage au niveau des cultures, est-ce que ça risque pas de perturber aussi l'écosystème?
Mais c'est quelque chose qu'il faut étudier avant de le faire, effectivement. De toute façon, avant de faire des lâchers, il faut toujours étudier l'impact que ça peut avoir sur l'écosystème. Là, on a par exemple des cocons. Là, il y a une guêpe adulte qui est en train de sortir de son cocon. Elle a fini son développement et là, elle est en train de sortir et puis après, elle va s'envoler.
Et toutes celles qui volent, là, elles sont sorties de leur cocon également.
Ouais, on voit qu'il y a des cocons qui sont vides.
Alors là, on arrive devant des boîtes dans lesquelles on voit des guêpes.
Alors, ce sont des cages. Il y a du tissu comme du moustiquaire autour et qui permettent de mettre plein de guêpes adultes à l'intérieur. Et vous voyez, au fond, il y a des chenilles. Donc, on va mettre des chenilles en contact avec les guêpes pour qu'elles puissent pondre à l'intérieur, parasiter la chenille.
Là,
c'est une boîte qui contient des papillons adultes. Donc on leur a mis du papier pour qu'elles puissent pondre dessus. Les mâles et les femelles vont s'accoupler et au bout de 1 ou 2 jours, la femelle va commencer à pondre. Et ce, pendant 2-3 jours, elle va faire des belles ooplaques, comme je vous disais, c'est-à-dire des amas d'œufs.
Est-ce que c'est ça qu'on voit sur le papier?
Non, ça c'est une tache.
Là, on arrive, enfin, c'est une dernière porte qui est écrit box virus.
Alors dans ce box, on étudie des densovirus. Donc c'est des virus spécialistes d'insectes. Comme pour les guêpes parasitoïdes, on va essayer de comprendre comment le virus tue la chenille pour voir si on peut limiter ou s'en servir pour faire de la lutte biologique. Il va y avoir des virus qui sont très spécifiques d'une espèce de chenille ou deux, ou d'autres qui vont avoir un large spectre. Donc c'est important d'avoir toutes ces données-là si un jour on veut pouvoir les utiliser dans les champs. Ce qu'il y a de particulier dans cette zone par rapport aux autres zones confinées, c'est que nous, on ne confine pas les pathogènes, puisque tous nos pathogènes d'insectes, ils sont présents dans la nature et ils ne sont pas dangereux, on peut les laisser sortir sans problème. On a l'habitude de confiner des choses microscopiques, des bactéries, des virus. Moi, je confine ce qui est un peu plus gros. Par contre, qui marche et qui vole.
Pas la chasse aux papillons, pas la chasse aux papillons.
Merci beaucoup. Alors, pas d'invité des trois dernières minutes cette semaine, mais je profite des quelques minutes qu'il me reste pour vous parler d'un séminaire qui aura lieu le jeudi 12 décembre de 14h à 17h15 sur le campus INRAE Hydropolis Lavalette. Il y sera question d'inondations et des adaptations nécessaires pour en limiter les impacts. Donc, pendant cet après-midi, les scientifiques et des parties prenantes locales dialogueront, parmi elles des entreprises inondées, des agriculteurs ou encore le 10-34. L'événement est organisé par l'Observatoire SOII, Système d'observation des impacts des inondations, par OREM, l'Observatoire de l'environnement. Il est ouvert à tous et toutes sans inscription préalable. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Alice Roland qui fait son retour parmi nous. Merci à toi. À la semaine prochaine et d'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.